Messieurs les censeurs, bonsoir.
Le soulèvement de la vie, l'appel de Maurice Clavel.
Vous savez très bien qu'étant dans la presse, dans les masses médias modernes, il se trouve un tel agglomérat, conglomérat, robinet perpétuel d'eau tiède, n'est-ce pas, que finalement plus rien ne marque, vous comprenez ? Plus rien ne marque, et c'est peut-être la principale chose que je reproche, enfin que je constate dans les masses médias. Je dois dire qu'il faut frapper quelquefois un peu trop fort pour que ce soit ressenti avec justesse et exactitude.
Maurice Clavel est un écrivain catholique indomptable qui a été étiqueté d'extrême gauche depuis qu'il a interprété mai 1968 comme un immense jaillissement de la parole. Les circonstances politiques ont fait que celle-ci a été déverrouillée sur la première chaîne de télévision depuis peu de temps et pour peu de temps. Ce 13 décembre 1971, Maurice Clavel y est invité à débattre armes égales avec Jean Royer qui lui passe pour le père la pudeur du moment. Voici donc que, peu de minutes après le journal télévisé, Clavel présente un film de sa façon. Un film, un récitatif, presque un oratorio, un appel au soulèvement de la vie, au soulèvement de chacun. On sait que la majorité des téléspectateurs prévoient de se coucher avant 22h, mais ce soir-là, à 21h, ils sont 11 millions devant la première chaîne. Beaucoup vont être saisis comme par un coup au cœur. Et voici encore qu'à peine son film achevé, Maurice Clavel déclare que l'équipe de l'émission en a censuré un mot. Un mot seulement, mais décisif selon Clavel, qui prend ses clics et ses claques et quitte le plateau sur un sonore. Messieurs les censeurs, bonsoir. La brèche ouverte ce 13 décembre 1971 dans la télévision d'État, l'appareil idéologique d'État, disait le philosophe Althusser, ne sera pas aisément fermée. 3 ans après, Valéry Giscard d'Estaing, élu président, servira ses intérêts en faisant éclater le vieil ORTF qui avait placé l'ensemble de l'audiovisuel public sous le contrôle vétilleux du pouvoir.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Philippe Artière, bonjour.
Bonjour.
Entre autres mérites, vous êtes un grand inventeur d'archives. Et vous avez retrouvé le courrier qui a été envoyé parfois le soir même, après l'Hypercute, ou alors le lendemain, quand les gens avaient encore des chandelles dans les yeux, à Maurice Clavel.
Oui, j'ai retrouvé ces milliers de lettres grâce à Antoine de Godemar. Antoine de Godemar était un proche de Clavel. Il avait fondé avec lui l'agence de presse Libération. Et voyant Antoine, je lui demandais chaque fois « Et vos archives, Antoine ?» Et puis un jour, il m'a dit « Je suis en train de vider ma cave. J'ai trouvé 2 boîtes. » Et ces 2 boîtes, c'était non pas les archives d'Antoine de Godemar, non pas les archives de l'extrême-gauche, c'était les lettres des Français. Des Français après cette émission.
Et vous leur faites une belle part dans le livre que vous publiez aux éditions de l'INA, intitulé « Le soulèvement de la vie ». On va commencer dans une dramaturgie sonore, toujours par le générique de l'émission « Armes égales » qui avait déjà servi au face-à-face, le modèle d'Armes égales Strauss, ainsi parlait Zarathoustra. Le rideau s'ouvre comme le soleil se lève et il y a une immense table et au bout, il y a 2 protagonistes. Ça, c'est le rituel d'Armes égales et puis des journalistes et puis du public.
Oui, exactement. Comme Christian Delporte l'a bien écrit, cette émission qui est inaugurée en février 70 un face-à-face, entre deux figures contradictoires. Donc c'est d'une certaine manière, c'est un fruit de 68, c'est un enfant des groupes.
Alors des groupes a été nommé directeur de la première chaîne par Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, qui passant outre aux prudences du président Pompidou, a décidé de déverrouiller la première chaîne.
Voilà, alors il y a cette je dirais, ce décorum antique, avec d'une part donc cette table avec ses deux protagonistes, et puis 10 Français qui ont été choisis par la Sofresse, et puis derrière l'amphithéâtre antique avec
puis,
son public.
Et puis vous avez oublié les journalistes et les producteurs, Bassi, Campana qui vient de disparaître, Guy Claes qui doit élever du vin maintenant, et le jeune infatigable déjà, Alain Duhamel. Alors il y a deux protagonistes, Jean Royer, le maire de Tours, partisan de l'ordre moral. Le thème, bon, il va être dépassé, mais ce sont les mœurs et leur transformation après 68. Et en face de Jean Royer, Maurice Clavel, dont on n'imagine pas l'immense influence à l'époque.
Oui, Maurice Clavel, c'est un homme qui entre dans l'histoire bien avant Pompidou, puisqu'il entre dans l'histoire avec De Gaulle pendant la guerre. Hein, il s'engage dès 42 dans la résistance, et puis il va être libérateur de Chartres, à la tête de FFI. Et ce Maurice Clavel, qui est à la fois disons, cette figure de la résistance, mais aussi une personnalité gaulliste importante, se convertissant au catholicisme, et puis étant totalement saisi par ce moment 68, et là, se rapprochant très fortement des maoïstes, avec qui il va donc fonder
l'agence de presse Libération.
L'agence de presse Libération, qui donnera ensuite Libération.
Et puis il écrit dans Combat, journal finissant mais courageux, et dans Le Nouvel Observateur, journal alors triomphant.
Et il tient des chroniques sur des radios périphériques.
Oui, enfin ça, on a interrompu au bout d'un moment quand même. Alors qu'il a une très belle et très forte voix, on va l'entendre, sa chronique à RTL. À chacun des partenaires d'Armes Égales est offerte la possibilité de réaliser un film long, 20-25 minutes, ça peut, celui de Clavel, est co-signé avec Jean-Pierre Alessandri.
Non, la machine n'est pas officiellement une déesse. En principe, le dieu, celui qui remplace dieu créateur, c'est l'homme. Mais lequel? Celui qui la conçoit, l'achète, la possède, ou celui qui la sert? Celui qui se l'incorpore ou celui qu'elle use et dévore. Les deux sont séparés par cette épaisseur-là qui est aussi le savoir. L'un sait, l'autre ne sait pas, et l'on se demande si cet homme humaniste, notable, distingué, n'aurait pas besoin d'un sous-homme pour se sentir un peu Dieu, pour se sentir vivre. C'est pour cela qu'il est si terrible quand il le peut, avec l'autre classe. À plus forte raison, avec les autres races. De là vient cette autorité implacable dans l'usine, d'un mot, à tous les sens de ce mot. On écrase. Mais le plus sinistre, peut-être, c'est l'optimisme. L'optimisme! Le gigantesque bain commercial d'optimisme. Vous serez fort, vous serez belle, vous serez voluptueux, vous serez heureux, vous serez libre, vous baiserez triomphalement jusqu'à 100 ans, en vous vend l'air, l'eau, le soleil, la neige, le sperme. C'est dit tant de millions et de millions de fois qu'on le croit, qu'on le croit. Et quand on est foutu et qu'on sait pas pourquoi, on s'en va vers le spécialiste du psychique. On le croit, on le croit. Et quand on n'y croit plus, comme on ne croit à rien d'autre.
Alors les téléspectateurs prennent ça en pleine gueule. Enfin, c'est le film qui précède le débat qui doit venir. En même temps, c'est un vocabulaire courant après 68, même si on l'a oublié là aussi. L'aliénation, le discours sur l'aliénation.
Oui, c'est à la fois la critique de la psychanalyse, c'est à la fois la critique de l'aliénation par le travail et notamment le travail à la chaîne, c'est tout ça. Et dans cette espèce de diatribe comme ça, qui est un moment, une logorée qui n'en finit pas. D'ailleurs, Clavel dira, j'avais pas le temps d'écrire, j'ai écrit ça en une nuit, et voilà, je l'ai lu, et c'était bien.
Alors nous, on va reprendre au début, parce que la difficulté va venir en fait du début du film. Il évoque son passé de libérateur de Chartres. Voici la version originale du début du film qui a été conservée par l'INA. C'est pas celle qu'on trouve sur ina.fr, c'est pas celle qui est passée à l'antenne. Essayez de trouver le mot qui va faire difficulté, celui qui va être censuré.
18 juin 1971, cette année, au Mont Valérien. Deux heures avant la cérémonie officielle, un petit groupe dépose une gerbe aux fusillés de la Résistance. Jean Cassou, Jacques de Bubridel, Vladimir Jankélévitch et moi-même accompagnons M. Jean-Pierre Le Dantec, dirigeant maoïste, à peine sorti de la prison de la santé, et deux de ses camarades. La gerbe est apportée par les trois jeunes gens. À l'heure où le président de la République confie à un très grand journal américain l'aversion et l'agacement que lui inspire la Résistance française, il est bon que le peuple y pense et en tressaille.
Le mot, c'est celui qu'a prononcé le président de la République, Pompidou ?
Oui, le mot, c'est aversion, qui est une traduction, en fait, de cet entretien qu'il donne au New York Times magazine, où il prononce ce mot « hate », qui est traduit par aversion.
Mais il a de l'aversion, pourquoi, Georges Pompidou ? Pour les querelles françaises, dit-il, ceux qui ont été résistants, ceux qui ne l'ont pas été ?
C'est-à-dire qu'on est dans un moment, y compris historiographique, où finalement cette question de la résistance, elle est centrale, mais elle n'a pas été encore, je dirais, beaucoup travaillée à l'époque. On a depuis eu des travaux très conséquents. Ce qui se passe, c'est que ça bloque immédiatement.
Du côté des producteurs.
Du côté des producteurs. C'est-à-dire que c'est pas possible. Autant c'était possible de travailler, de revenir sur le titre, société répressive, société permissive. Devenir mœurs, en quoi la société française est-elle responsable, ça c'était possible, mais là, ça passe pas.
Et rappelez que le président de la République n'avait pas été spécialement résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais l'équipe de des groupes et puis les producteurs d'armes égales en difficulté. Alors voici la conclusion, ni une ni deux, qu'en tire Maurice Clavel.
Monsieur Maurice Clavel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre film ?
J'ai beaucoup de choses à ajouter à mon film.
Tout de suite.
Tout de suite. Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des trois quarts, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. Messieurs les censeurs, bonsoir.
Alors on imagine l'embarras d'Alain Duhamel, le présentateur, des autres producteurs, parce que ils veulent maintenir la méthode des groupes, et ils ont la responsabilité de la maintenir, et c'est pour ça qu'ils ont pris la liberté de censurer un mot.
Oui, oui, ils veulent absolument pas qu'il se passe ce qui s'est passé pour l'émission de Michel Pollack, Post-Scriptum, où après ce film, ce débat autour de l'inceste et du film de Louis Malle, tout a pété. C'est-à-dire que Pollack est parti. Et ça, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent maintenir ce face-à-face qui est une petite fenêtre. Mais c'est vrai qu'Alain Duhamel n'est pas pour le moins très courageux.
Alors je vous laisse la responsabilité de vos propos. C'est pas Post-Scriptum, je crois que c'est l'émission précédente de Michel Pollack. En tout cas, armes égales, ce soir-là va se terminer un peu tôt, faute de combattants.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ce 13 septembre 71, Clavel avait pu s'adresser directement au peuple.
Je m'adresse à un peuple qui, malgré bien des actes depuis 3 ans, comparables aux 1000 ruisselets invisibles d'une marée montante, n'a pas encore su se traduire, se répandre, se délivrer. Je m'adresse à un peuple qui a perdu sa patrie car il ne voit à sa place que des banques, encore heureux quand elles sont sur le territoire. Un peuple que ses maîtres détournent de son destin par les miettes de leur festin. Je m'adresse aux familles françaises dont le père, peu à peu asservi ou habitué aux lois de ce monde, voit son fils qui les brise et quelquefois s'y brise et n'ose pas l'assister. Je m'adresse à tous ceux qui travaillent en bas de l'échelle, avec d'autant plus de vertu que peu de joie, et que l'argent facile en haut démoralise. Je m'adresse à l'armée et aux forces de l'ordre, sachant leur désarroi de n'être pas aimés, songeant qu'elles furent naguère libératrices. Je m'adresse à l'Église qui suit le train de son temps au lieu de le rompre. Je m'adresse surtout à toute la jeunesse et je l'appelle à dépasser les dépressions et provocations pour prendre et refaire. Je m'adresse aux vieillards qui vont bientôt mourir en se disant qu'ils n'ont rien laissé. Mais ce n'est pas vrai. Tout commence si vous avez le courage. Si le champ, le quartier, l'atelier, l'usine, la ville, la région, le peuple, enfin, prennent la parole et la garde. À vous de vivre demain.
Et le peuple répond, envoie à Maurice Clavel. Il y aurait d'autres sources possibles à découvrir, des milliers de lettres dont vous publiez, Philippe Artière, des extraits dans Le Soulèvement de la vie aux éditions de l'INA. Bon, il y a bien quelques mauvais coucheurs qui rappellent quelques variétés à Maurice Clavel.
Ah oui, Maurice Clavel reçoit quand même des lettres vertes, pleines d'injures. Clavel en Chine, Clavel
au travail,
cesse de corrompre notre jeunesse, etc., etc. Donc, il y a une parmi ces personnes qui prennent la plume, qui prennent l'écriture, hein, comme Clavel a pris la parole, eux vont répondre par un geste massif de prise d'écriture. Cette prise d'écriture, elle n'est pas unanime. Elle est, je dirais, elle permet d'avoir un large spectre des réactions des téléspectateurs par rapport à cet événement de parole. Et c'est ça qui est intéressant pour l'historien. C'est ça qui est intéressant parce que ce que l'on y voit, c'est une coupe de la société française. Et parmi cette société française, bon, bah, y a des gens qui trouvent que Clavel, il dépasse les bornes.
Coupe de la société française, la coupe peut se faire à l'intérieur de chaque famille. On a pris le parti de lire, en les mêlant un peu, quelques-unes des lettres que vous publiez. C'est l'équipe de la marche de l'histoire qui va la faire. La famille va être troublée. On regarde la télé en famille, ou alors on fait descendre le fils ou la fille de la chambre où il faisait ses devoirs.
S'il nous fallait nous convertir à nos enfants pour les soulager, on va leur chercher la lune et ils ne nous demandaient que de changer la terre et nous-mêmes.
Cher monsieur, si je vous écris, c'est que j'ai moi-même 3 grands garçons qui ont vécu diversement les événements de mai. L'aîné venait d'être reçu à un internat de médecine de province, ou plutôt d'y commencer cet internat, et regrettait de n'être pas parisien en ces jours-là. De cœur, il y participait, car pour lui, les choses sont lourdes. Le second, aujourd'hui marié et père d'un petit bambin, avait sa fiancée en Angleterre, de toutes les communications étaient sinon coupées du moins difficiles. Son cœur à lui était là-bas. Le troisième était à l'école alsacienne, et par tempérament, il n'aime pas le Chambard. Ce soir, il vous a approuvé, dès demain, malgré qu'il ait été très désireux de vous écouter. Il a même pris lui aussi le ton passionné pour me le dire, alors que je faisais quelques réserves sur votre attitude. Et c'est à cause de cela que je vous écris. Nul ne se connaît parfaitement bien. Et je ne sais pas ce que je suis moi-même, ni l'image que mes enfants ont de moi. Votre sortie a été l'une des rarissimes occasions d'affrontement, si l'on peut employer un tel mot, pour quelque chose de si imperceptible et de si bref. Pourquoi, me dis-je ? C'est qu'il y a dans tes enfants une vision d'absolu, que tu n'as peut-être pas en toi-même, et qu'en l'occurrence, Clavel était plus en harmonie avec cette vision d'absolu. Est-ce cela ? Je n'en suis pas certain, malgré que ce soit là les apparences. Docteur Augustin R. Alfortville.
Monsieur, bravo Monsieur Maurice Clavel suffirait peut-être. Je voudrais pourtant essayer d'en dire plus, malgré tous les complexes que donne le manque de culture. Nous étions deux ce soir. Les grands sont rentrés au lycée, pour voir la télé. Deux ni jeunes, ni vieux, deux ni fatigués, ni reposés. Deux sans souvenir de guerre, ni de révolution, même manqués. Deux qui ne savaient même plus qu'on n'a jamais passé l'âge de crier et faire scandale. Et d'un seul coup, oui monsieur, nous avions plus que 40 ans à deux, levant le poing, tapant main, nous étions redevenus nous. Nous étions nos fils manifestant dans les rues ou leurs bahuts. Madame G, 40 ans, privat.
Grâce à vous, monsieur Clavel, nous avons soudain l'âge de nos enfants.
Ouais. C'est ça qui est tout à fait saisissant en découvrant ces lettres. Ces lettres dont il faut dire que Clavel a tenu à répondre à chacune. Et c'est pour ça qu'elles ont été conservées. Clavel, avec toute une équipe, et à l'Obs et à l'APL, avait donc organisé un petit secrétariat où il a répondu. Et il a répondu probablement saisi par ce qu'il avait provoqué, voyant à quel point cette prise de parole, au-delà du film, mais aussi le film avait produit ça, suscitait le besoin chez un certain nombre de téléspectateurs dès la fin de l'émission, c'est-à-dire dès 21h. On a l'heure. Je viens d'éteindre le poste. Je prends la plume. Je ne peux pas résister. Vous m'avez transporté. Vous nous avez transporté. Vous nous avez transformé aussi. Et ce que l'on entend dans les lettres de ce père qui dit pour la première fois, finalement, on a eu un débat. C'est ce que cet écran et Clavel sur cet écran a véritablement produit. Mais ça peut être aussi des attentes qui sont très fortes. On a des courriers aussi de groupes qui se réunissent ensemble, comme aujourd'hui certains regardent un match de football. Mais ils supportaient Clavel. Ils voulaient supporter Clavel. Alors ils sont devant. Ils sont un groupe de lycéens, un groupe d'enseignants, un groupe d'ouvriers. Ils sont devant la télévision et ils sont là et disent « On est avec vous, Clavel ».
Parce que beaucoup de lettres aussi datent du lendemain ou du surlendemain, parce que c'était une époque où on débattait, on discutait au café, au lycée. Il y a des classes entières qui n'ont parlé que de ça, le lendemain des émissions de télévision.
Il faut dire que la chaîne unique a cet avantage que finalement elle produit une culture unique. Donc on débat. On débat de ce qu'on voit, et même quand, après les trois chaînes, effectivement, on débattait des films. Là, on débat de Clavel, parce que ce qu'il faut immédiatement rappeler, c'est que ça orchestre tout un ensemble d'articles qui paraissent dès le lendemain dans Le Monde, dans Le Figaro, dans un certain nombre de journaux, et dans Combat, et bien sûr, puisque... Clavel en est un des animateurs, et eh bien tout ça, et puis relancé aussi par l'Obs, puisque Clavel y publie une tribune.
Rassurez-vous, on n'a pas trouvé beaucoup de traces dans les journaux de France Inter, ce sont les bienfaits de l'organisation unique de l'audiovisuel public, où la radio et la télévision sont solidaires. Alors justement, qu'est-ce que ça révèle du rapport des Français à la télévision ? Encore des extraits des lettres que vous avez lues.
Monsieur, il se trouve que j'ai payé ma taxe annuelle à la télévision le jour même de votre émission historique à armes égales. Je ne résiste pas au plaisir de vous écrire pour vous dire que je me considère remboursé pour l'instant merveilleux que vous m'avez fait vivre. Monsieur André B., instituteur, Alès. À Monsieur Maurice Clavel. Excusez-moi d'avoir été si peu attentif à votre intervention, mais vite s'affolait en moi un cri de joie impatient de fusée. Bravo ! Il a interrompu cette bouffonnerie. Bravo ! Il a fracassé la mangeoire au cochon. Bravo ! Il a dû vain dialogue pulvériser le cadre factice dès lors que l'essentiel venait d'être dit. Émile D. à Charbonnière.
Voilà, on paye la redevance, on sait pourquoi on la paye. Au moins, on a un moment de bonheur.
Oui, c'est cette écriture de faire de la joie aussi, hein, que ces courriers, moi, c'est ce qui m'a encouragé à me lancer dans cette aventure, disons, de transcription et de choix de ces lettres. C'est que Clavel procure de la joie, une joie partagée, et que finalement le soulèvement, il est infini, quoi. Il se fait partout où on a entendu Clavel.
Mais vous croyez que la télévision, ça peut être un levier ? C'est assez unique dans l'histoire de la télévision, cet événement inouï.
Alors, c'est à la fois unique, mais on est quand même dans un moment bien particulier, puisqu'on est en décembre 71, le 13 décembre, le 11 décembre, les prisonniers de la centrale Ney de Toul se soulèvent. Et ce sont de jeunes prisonniers. Et puis le début 72 sera plus qu'animé avec cette mort tragique de Pierre Auvernet en fin février, donc assassiné par la ministre de Renault. Donc il y a quand même un climat, je dirais, qu'on a un peu oublié au profit du mai-juin 68. Il y a dans cet hiver 71-72 quelque chose qui relève véritablement de ce surgissement, de ce soulèvement. Et je crois que ces lettres, et c'est ça qui m'intéresse, vraiment, sont l'archive du soulèvement.
Mais rassurez-vous, je parle toujours de la télévision, quand après la révolte des prisonniers de Toul, le jour du Seigneur, une émission apparemment insoupçonnable, avait donné longuement la parole à l'aumônier qui défendait les prisonniers, aussitôt, Monsieur René Pleven, garde des Sceaux, avait demandé un rectificatif, le contrôle continuait. Et puis, on va voir peu après Jacques Chaban-Delmas être débarqué de Matignon et du coup des groupes perdre la direction de la première chaîne. Et Clavel, pourquoi est-il si oublié ?
Clavel est oublié, alors peut-être à cause de son accent ?
Hein,
oui, peut-être à cause de son caractère extrêmement composite ? Je dirais un chrétien, je dirais un gaulliste, je dirais un maoïste, et surtout quelqu'un qui occupe beaucoup d'espace à un moment donné, influence beaucoup, fait rencontrer beaucoup de gens. Hein. Il ne faut pas oublier que Clavel, c'est celui qui fait aussi se rencontrer les philosophes d'une génération, qui est la sienne, celle de Foucault, celle de Deleuze, etc., avec les nouveaux philosophes. Bon, Deleuze ne les aimera pas, Foucault...
Reste quelques livres disponibles. Vous avez apporté un livre de poche, Les paroissiens de Palante, sur Lippe, notamment.
Sur Lippe, et avec cet appel véritablement aussi à une forme d'écriture de l'histoire, un roman polyphonique. Et c'est ça, en tout cas, que Clavel m'a donné envie de faire.
Édition de Lina, Le soulèvement de la vie, sous votre signature, Philippe Artière.